12h15. Le journal est présenté par Thomas Nagy.
Bonjour, elle était attendue, elle a fini par arriver. Le HC Ajoie a finalement goûté à la victoire dans le championnat de National League cette saison. Hier soir, les Jaunes et Noirs se sont imposés 5-2 à domicile face à Kloten. La tradition est en marche vers le Boëchel. La 34e édition de la Des Alpes se tient aujourd'hui. Dans moins d'une heure, une centaine de génisses partira de la Combe à la Biche pour rejoindre le Boëchel. Un moment rempli d'émotion pour les bergers. C'est un drame qui a défrayé la chronique il y a 30 ans, le 5 octobre 1994. La Suisse découvrait le drame de l'ordre du Temple solaire. 48 membres de la secte ont été retrouvés morts. Le journaliste jurassien Arnaud Béda avait largement couvert l'affaire à l'époque. La grisaille devrait progressivement laisser place au soleil cet après-midi. Les températures resteront fraîches pour la saison jusqu'à 14 degrés en plaine et 10 dans les Franches-Montagnes. Elle est arrivée, cette première victoire de la saison. Le HC Ajoie a enfin gagné dans le championnat de National League de hockey sur glace. Il a pris la mesure de Kloten 5-2 hier soir à Porrentruy. De quoi remettre son moral d'aplomb. En mettant tous les ingrédients nécessaires dans la marmite, les Jaunes et Noirs ont amplement mérité de l'emporter. Le HCA a donc pu pousser un gros ouf de soulagement, l'attaquant québécois Philippe Michael DeVos.
C'est sûr que c'est un point qui est enlevé de nos épaules. On a joué désespéré ce soir et c'est ce qu'il faut faire à tous les soirs pour ramasser des points.
Qu'est-ce qui a changé? Quel a été le déclic?
Comme j'ai dit, désespéré. On voulait pas avoir un long week-end avec aucune victoire dans le pif, comme on dit. Il faut jouer désespéré comme ça à tous les matchs avec la même intensité, le même effort.
Intensité, solidarité, générosité aussi. Hein. Ajoie n'a rien lâché. Devant, derrière, tout le monde a tiré la même corde.
Ouais, exact. Je pense qu'on peut lever notre chapeau aux joueurs en désavantage numérique. On a des défenseurs ce soir qui sont sacrifiés, qui ont bloqué des lancers. Genoux par terre, tout ça. Donc vraiment une belle victoire d'équipe.
Évidemment, cette première victoire arrive. Il y a des enseignements très positifs à en tirer pour ne pas desserrer les trains. Par la suite, comment est-ce qu'on doit se comporter après une victoire comme ça, qui est finalement la première après une longue série de défaites?
On va être positif ce soir, c'est sûr qu'il faut prendre moins de pénalités, c'est quelque chose qui est très important. Mais comme j'ai dit, c'est que tout le monde a poussé, je pense que c'est vraiment le désespoir. On sentait que ce soir, c'était la victoire ou rien. Et puis, il faut avoir cette mentalité-là à tous les matchs. Donc voilà, on a travaillé, je pense qu'on a certainement mérité ce soir. Il faut jouer tous les soirs comme ça.
Maintenant, il y a un mot, c'est la remontada.
Ben, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ça va vite, hein, à 3 points, la victoire. Il n'y a personne qui est au fond du bac, il n'y a personne qui est désespéré à ce niveau-là. On n'est pas désolé pour nous, on s'est mis dans cette situation-là, à nous de nous en sortir. Comme j'ai dit, ce soir, c'est un bon départ pour changer le momentum.
Philippe Michael DeVos qui répondait à Raphaël Chalvera. Le HC Ajoie est toujours lanterne rouge du classement avec désormais 3 points au compteur. On retrouvera le reste de l'actualité sportive dans le Point Sport après ce journal. Les génisses sont dans les starting blocks, si l'on peut dire. Dans moins d'une heure, la traditionnelle des Alpes du Boëchet se mettra en route. Une centaine de bêtes partira de la Combe à la Biche pour rejoindre le hameau franc-montagnard. Depuis mi-mai, les animaux broutent l'herbe à 1200 mètres d'altitude et passer 6 mois à l'alpage avec les animaux crée des liens, comme nous l'explique la bergère Madeleine Schmitt.
Oh, mais je les adore. C'était juste merveilleux. Parce que je ne vous ai pas crié devant la maison parce qu'elles arrivaient tous à la barrière. C'est juste un plaisir.
Une des Alpes, c'est finalement un au revoir?
Oui, alors c'est vraiment un au revoir. Et puis il y a une partie de la vie qui s'arrête. On se dit vivement le printemps prochain.
C'est un crève-cœur aussi de les voir partir, même si on sait qu'on va les retrouver dans quelques mois?
Non, c'est pas un crève-cœur. Parce qu'on sait que là, elles étaient plus bien, parce qu'on a eu un été pourri. Elles ont pataugé dans la merde, il faut appeler un chat un chat. Et puis voilà, et puis maintenant, elles retournent dans leur nid. Et puis voilà.
Et le départ de la Des Alpes sera donné vers 12h45 à la Combe à la Biche pour rejoindre le Boëchet vers 14h30. Vous pourrez découvrir un reportage dans notre édition de 18h. Le plus grand marché d'automne de Suisse romande bat son plein. La 14e édition de la manifestation de Champeau attire tout le pays, autant chez les artisans et les exposants que dans la foule. Le marché qui a lieu tous les premiers samedis d'octobre depuis plus d'une dizaine d'années bénéficie d'une belle renommée en Romandie. Pour le président du marché d'automne de Champeau, Johann Stoller, c'est grâce notamment à son authenticité.
Mais je crois que c'est un petit village avec son charme, je crois. On est aussi très sélectif, ou on essaye d'être le plus sélectif possible dans le choix des exposants. Puis ça, je pense que c'est une clé de la réussite aussi. On veut vraiment rester un marché artisanal, nous ne voulons pas devenir une foire. Et c'est peut-être justement le fait qu'on reste artisanal que ça soit autant apprécié.
Vous dites que vous êtes très sélectif dans le choix des artisans. Est-ce que vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop de mêmes choses qui soient présentées?
Bien sûr, on essaye, ouais. Ouais, on essaye, c'est très compliqué. Honnêtement, on a reçu environ 250 demandes cette année, donc à trier tous les exposants. Finalement, c'est un formulaire qu'ils remplissent, puis on ne sait jamais exactement ce qu'ils vendent. Donc des fois, il y en a certains qui ne rentrent pas forcément dans le cadre, qui passent entre les mailles du filet, entre guillemets. Mais on essaye d'être sélectif puis d'avoir une ligne. Ouais.
Le marché s'est aussi agrandi, c'est aussi plus de préparation pour vous derrière?
Oui, on a agrandi, effectivement, on a une vingtaine de places supplémentaires, un petit peu plus de travail, mais on en est 140 ou 160 places. La base du travail reste la même. Ouais.
Des propos recueillis par Tom Bullman, le marché d'automne de Champeaux continue jusqu'à ce soir 22h. La Suisse se réveillait sous le choc il y a 30 ans, le 5 octobre 1994. 23 corps sans vie étaient retrouvés dans une ferme incendiée à Chéry dans le canton de Fribourg et 25 autres dépouilles dans deux chalets en feu à Salvan en Valais. Les enquêteurs identifient rapidement le trait d'union entre les deux faits. Une secte, l'Ordre du Temple Solaire, a planifié un nébuleux transit vers Sirius par le biais de suicides et d'assassinats de ses adeptes. La veille, 5 corps en lien avec l'OTS avaient été découverts à Morin Heights au Québec. Le journaliste jurassien Arnaud Béda, décédé l'an dernier, avait enquêté sur l'Ordre du Temple Solaire à l'époque. En 2022, il était revenu sur les causes des massacres à l'occasion de la sortie d'un documentaire sur l'OTS. Arnaud Béda.
Ce qui explique le déclenchement de la tragédie, en fait, c'est la rencontre de deux personnages. C'est Luc Jouret, homéopathe belge, gourou du Temple Solaire, avec l'autre gourou, l'autre chef, Joe Dimambro, qui est un petit escroc du midi, avec une moumoute, des gourmettes, des lunettes de soleil. Il a un look un peu plouc, hein, pour être clair. Mais ces deux personnages mis ensemble, c'est l'allumette qui allume la mèche. Enfin, mis ensemble, c'est détonnant et c'est ça qui a amené à tous ces adeptes, ces dizaines d'adeptes, à les suivre dans leur folie.
Et le déclenchement des tueries en elle-même, c'est plutôt des considérations d'ordre financier ou est-ce que Jouret, Dimambro, sentait que le mouvement leur échappait quelque part?
Sur les causes, il y a plusieurs histoires dans l'histoire, j'ai envie de dire. Oui, ils étaient aux abois, oui, ils n'avaient plus d'argent. Mais il y avait aussi toute une paranoïa qui s'était instillée dans l'esprit des gourous. Ils avaient été, à leurs yeux, persécutés au Canada, l'histoire de la fameuse arme qu'ils cherchaient à se procurer avec un silencieux, où ils ont été dans les radars de la Sûreté du Québec, qui à l'époque pensait écouter un groupe terroriste, mais se sont retrouvés à écouter des gens qui déliraient sur la fin du monde. Il y a eu toute une addition d'éléments qui ont conduit à ces massacres. Il y avait d'énormes parano dans le Temple Solaire. Jouret et Dimambro avaient l'impression que la terre entière leur en voulait. Ils avaient l'impression que Mitterrand, Pasqua, tout le monde les surveillait. Alors qu'ils n'ont jamais été surveillés par personne, sauf par des policiers québécois, un peu par hasard en 92.
Aujourd'hui, est-ce que l'affaire du Temple Solaire, elle comporte encore une part de mystère importante à vos yeux, ou est-ce que finalement on sait à peu près tout?
Non, on sait à peu près tout. Alors oui, dans les détails, il restera toujours des zones d'ombre. On ne saura pas exactement tout dans la manière, comment les actes ont été commis. On aurait évidemment envie de savoir, quand on s'y est passionné autant de temps, comment les gens sont morts, quels ont été leurs derniers mots. C'est ça, c'est plus des mystères de l'ordre de l'intime. Mais dans les grandes lignes et même dans les détails, on sait à peu près tout, ça c'est certain.
Arnaud Béda qui était au micro de François Comte. Les différents massacres liés à l'ordre du Temple Solaire s'étaleront sur un peu plus d'un an et demi et feront 74 morts au total en Suisse, au Québec et en France. Dans l'actualité à l'étranger, les combats au Liban continuent. Ce matin, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes dans la banlieue de Beyrouth, un fief du mouvement armé Hezbollah. Ce dernier a affirmé être également engagé dans des affrontements avec les troupes israéliennes à la frontière libanaise.
12h24.
Sport.
Et c'est face aux aviateurs que le HC Ajoie décolle enfin, Émilie Momentaler.
Oui, comme vous l'avez entendu en ouverture de journal, les hockeyeurs jurassiens ont signé leur premier succès de la saison en National League en dominant Kloten 5-2 hier soir à Porrentruy. Ils mettent ainsi fin à une série de 7 défaites de rang. Le HC reste dernier à 6 unités de la 12e place. Un long déplacement pour le HC Franche-Montagne. Les Taignons sont attendus à 20h à Rosa en Hockey League. Ils sont en quête d'une deuxième victoire à l'occasion de cette 6e ronde, eux qui restent sur une lourde défaite il y a 3 jours contre le leader Martigny. 9e, les Jurassiens accusent 5 longueurs de retard sur les Grisons qui sont 5e de la hiérarchie. Deuxième match de la semaine également pour le HC Delémont-Vallier. Après une défaite inaugurale mardi en Première Ligue, les Fantômes voudront lancer leur saison avec un déplacement chez Vicky Munzingen qui disputera sa première rencontre. Premier engagement à 17h30. Le BC Boncourt battu lors de son premier déplacement en Ligue B. Les Ajoulots ont perdu 76 à 59 face au Centre National de Basket Suisse hier soir à Lausanne. Ils ont fait jeu égal avec les Vaudois lors des premiers et troisièmes quart-temps, mais ont concédé trop de retard lors des deuxième et quatrième périodes pour espérer mieux. Le BCB encaisse une deuxième défaite en autant de matchs en ce début de saison. On passe au football avec les SR de Lémont qui voudront confirmer. Les footballeurs de la capitale jurassienne se déplacent à Kriens à 17h30 en Promotion League. Après avoir décroché sa première victoire de la saison la semaine passée, la Lanterne Rouge tentera d'enchaîner avec un deuxième succès de rang chez les Lucernois qui figurent sur la troisième marche du podium. Duel de bas de classement pour le FC Basse-Cour. Avant-dernier, les Vadais reçoivent le dernier de la classe, Moutons, à 16h au Grand Prix en Première Ligue. Après avoir perdu 4 de leurs 5 derniers matchs, l'équipe de l'Ulzim Uchi accuse une longueur de retard sur le premier non relégable. Et beau challenge pour le FC Courtatel qui s'en va défier le Dauphin. Actuellement en milieu de classement, après 4 journées sans victoire, les Verts ont rendez-vous à 18h chez les moins de 21 ans de Grasse-au-Père qui les précèdent de 4 points. Un derby sous haute tension en deuxième ligue interrégionale. Le FC Agen-Montéry accueille le FC Tavannes-Tramelan à 16h sur la pelouse synthétique de Courgenay. Les deux formations de notre région pointent actuellement sous la barre à égalité de points avec une unité de retard sur le premier non relégable. Les précisions de Michel Léoni.
Avec 7 points récoltés en 7 matchs pour le FCTT et en 8 matchs pour le FCAM, le bilan intermédiaire est plutôt amer. Si rien n'est encore joué, les deux équipes seraient bien inspirées de gagner ce derby pour retrouver le bon côté de la barre et espérer enclencher une dynamique positive. Les Ajoulots sont dans une période moralement difficile. Ils n'ont en engrangé que 2 points lors de leurs 5 derniers matchs et à chaque sortie, il y a des regrets. Celui d'avoir vu l'adversaire revenir alors qu'Agen-Montéry menait ou celui d'avoir encaissé en toute fin de rencontre. Du côté de Tavannes-Tramelan, il faudra avant tout digérer la défaite 6-5 de mercredi contre Muri-Gumlingen. Il faudra surtout colmater les nombreuses brèches défensives et le manque de maîtrise observé contre les Bernois. Il faudra aussi renouer avec une certaine solidité défensive qui fait souvent la force du FCTT.
Ce duel entre le FC Agen-Montéry et le FC Tavannes-Tramelan commence à 16h à Courgenay. Vous entendrez des réactions demain dans le journal de 12h15. Les choses sérieuses commencent en Liga d'Inline Hockey. Rosmaison et Buis disputent le premier acte des quarts de finale des play-offs dès 18h. Le leader de la saison régulière, Vadais, reçoit la Tour au Forum Biwi. Cinquième après les 18 journées, les Ajoulots se déplacent au TC à Malcantone. Ces séries se jouent au meilleur des trois actes. Et enfin, Francesco Bagnaia a remporté la course sprint du Grand Prix du Japon de MotoGP. L'Italien a profité d'une chute de Pedro Acosta. Il revient ainsi à 15 points du leader du championnat du monde, Jorge Martin, quatrième aujourd'hui à Motegi.